Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
Touchdown.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, épisode 473 du podcast Touchdown Actu. Mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler draft. Jean-Michel Boujard au mic et pour m'accompagner, Victor Rouillet. Salut Victor, ça va ?
Ça va, ça va. Jean-Michel au mic. Yeah. On voit l'influence Marseille, IAM. On voit cette jeunesse-là qui est derrière toi.
Night Dog, yeah. Aujourd'hui, une position premium, celle des cornerbacks. Ces joueurs chargés de marquer les receveurs adverses, se chargés de ne pas donner de possibilité aux quarterbacks adverses. Alors, comme toujours, on va commencer avec deux joueurs et puis ensuite, on déroule. Allez, c'est parti.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Et on commence avec un cornerback qui met les receveurs dans la sauce.
Oh là là, quelle transition magnifique. Ahmad Sauce Gardner, oui, c'est son surnom, hein, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas nous. Bon, on va juste en préambule dire que les cornerbacks, et vous l'aviez dit dans la toute première émission avec Grégory, c'est comme les edges, il y a du talent partout et ça va vraiment phagocyter les trois premiers tours. Donc Ahmad Gardner, c'est un joueur qui a une dimension athlétique pour jouer en NFL. Globalement, il est bon tout le temps, c'est-à-dire qu'il est bon en homme à homme, il est bon en zone. Quand je dis il est bon en homme à homme, il peut défendre un receveur rapide, il peut défendre un receveur costaud. Il a la vitesse, il a le QI football, et on y reviendra parce que dans cette université, les cornerbacks sont très intelligents. Après, c'est pas le monstre physique que certains autres vont être. Donc, c'est sûr que si tu as une défense plutôt agressive qui joue en presse, c'est peut-être pas le premier joueur que tu vas vouloir. C'est peut-être pas le joueur le plus agressif, méchant qu'on puisse avoir. Mais c'est un joueur d'une efficacité incroyable. En trois saisons en université, il a réalisé 9 interceptions. Il a concédé 0 touchdown. 0. Aucun. C'est incroyable. Il n'a concédé cette année que 2 pénalités. Il loupe 10% de ses plaquages, ce qui est largement acceptable, surtout quand on va voir certains qui en loupent beaucoup plus. Vraiment, pour moi, Ahmad Gardner, c'est sûr que c'est moins sexy que les 2-3 suivants dont on va parler, mais il peut devenir cornerback numéro 1.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Tu l'as dit, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il fait 3 saisons à l'université, il ne concède aucun touchdown, aucun, 0. Donc, c'est incroyable. Alors, c'est vrai, il est très peu ciblé parce que forcément, les quarterbacks adverses l'évitent au maximum. Mais comme tu l'as dit aussi, il a fait 9 interceptions en carrière et en fait, il en a fait 3 en 2019, 3 en 2020 et 3 en 2021. Donc, le peu de fois où il est ciblé, ben, il punit les quarterbacks. Donc, du coup, c'est clair qu'il l'évite. Donc, c'est vraiment un cornerback qui a vraiment tout parce qu'en plus, il a la taille, il fait 1m88, il a les bons instincts, il a des longs bras, il a une bonne intelligence de jeu. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un cornerback numéro 1 en NFL. Donc, c'est un premier tour, ça, c'est certain.
Oui.
Après, voilà, à ton avis, tu le vois où dans le premier tour ? Tu le vois plus dans le top 10 ou tu le vois un peu juste après ?
Non, je pense que malgré tout, même si le poste de cornerback est de plus en plus important, le poste de edge reste prioritaire. Et on en a parlé dans un podcast précédent. Il y a tellement de bons edge que ça risque de décaler un tout petit peu certains autres défenseurs. Donc, je pense qu'il fait partie des 5 qui, pour moi, peuvent potentiellement être top 20. Après, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment du type de défense et de ce qui est recherché chez le cornerback. Parce qu'on a vraiment des profils très différents. Mais je serais très étonné. Alors, cataclysme. Il sort du top 20, mais je ne vois pas sortir du premier tour, quoi qu'il arrive.
Ouais, non, mais on est d'accord. On est d'accord. On va passer sur un autre cornerback, un autre profil. Il s'appelle Derek Stingley. Il joue à LSU. Alors, Derek Stingley, déjà, c'est un talent énorme. Il a tout ce qu'il faut, tout. Il a la taille, 1m85, 88 kg. Il a les qualités athlétiques, il a les instincts. Il a vraiment le profil du shutdown corner, c'est-à-dire le gars qui est aligné sur le meilleur receveur adverse à chaque match. Il peut jouer en homme à homme. Il a aussi beaucoup joué en zone à LSU. Il a une bonne intelligence de jeu. Il sait tout faire. Il a donc un bon gabarit, c'est un bon plaqueur. Il contribue aussi contre la course. Bref, un joueur qui vaut vraiment un choix du top 10 de la draft. Et vu sa position, il vaut même un top 5. Oui, mais voilà. Voilà. Le souci avec Derek Stingley, c'est qu'après une saison freshman 2019 fantastique, où il avait défendu 15 passes, dont 6 interceptions, on l'a vu en 2020, dans une saison certes un petit peu écourtée par la pandémie, mais il n'avait pas montré la progression attendue. Alors, c'est vrai, il était moins ciblé aussi. Comme pour Sauce, il était craint par les quarterbacks. Bon. Mais le souci, il n'est pas là. Le vrai souci, c'est qu'il se blesse en 2021 et il ne joue que 3 matchs. Et le problème, c'est que ce n'était pas sa première blessure. Voilà. L'historique de blessure de Derek Stingley avec LSU, c'est ce qui va vraiment poser problème pour son statut à la draft. Parce qu'il a eu diverses petites blessures, plus ou moins importantes. Et la dernière, elle est quand même relativement importante. Parce que c'est une blessure au pied. Et le pied, pour un cornerback, pour tous les joueurs bien sûr, mais pour un cornerback qui doit savoir changer de direction, qui doit savoir accélérer, qui doit savoir sauter pour défendre une passe, une blessure au pied, forcément, c'est handicapant. Donc, dans tous nos podcasts, on le répète, le NFL Combine, c'est important pour évaluer les capacités athlétiques des joueurs. Mais pour Stingley, le Combine, il sera important, c'est surtout au niveau du dossier médical, voir où il en est de sa blessure. Parce que s'il est vraiment bien remis, et si en plus il est bien remis, il participera aux ateliers, il va briller. S'il est bien remis, alors oui, il peut être clairement un top 10 de la draft, voire même plus haut. Mais voilà, pour l'instant, on a vraiment des doutes sur le rapport médical de Derek Stingley, et c'est là sa principale limite.
Oui, j'ai un peu l'impression quand même qu'on vit uniquement sur son année freshman de 2019. Alors oui, c'est vrai, il a fait 6 interceptions. Oui, c'est vrai, il a été extraordinaire, etc. Mais 2020-2021, en tout, il joue 10 matchs. C'est quoi son bon match? C'est quoi vraiment son match où il écrase super receveur en face? Il n'en a pas vraiment. Donc, moi, c'est vrai que je ne sais pas quoi penser. Top 10, vu les blessures, j'ai envie de dire non, même s'il fait un bon combine. Sur le potentiel pur, c'est le meilleur cornerback de la QB. On est d'accord, c'est un potentiel de Jalen Ramsey en termes de domination. Le problème, c'est qu'il faut que ça se retranscrive sur le terrain. Et depuis 2019, on ne l'a pas vu. Donc, j'ai envie de dire, c'est high risk, high reward. C'est un énorme risque parce qu'il peut devenir vraiment un shutdown corner, un top 5 de NFL. Comme il peut devenir un mec constamment blessé qui n'apportera jamais rien. Donc, c'est vraiment l'énigme de ces joueurs pouvant prétendre au premier tour. Et du coup, moi, j'ai du mal à le voir au premier tour. J'ai du mal à le voir, top 10, comme tu le disais, parce que je pense que même s'il fait un bon combine, tu ne peux pas avoir autant de blessures sans que ça dévalue pas un peu ta valeur au moment des choix.
Oui, c'est clair, c'est clair. Et les deux joueurs sont différents, parce que je vais prendre une comparaison, mais ça fait penser un petit peu à Caleb Farley de l'année dernière, qui lui aussi avait montré de très, très belles choses au niveau universitaire, etc. Mais il avait des soucis de blessure. Alors, au final, ça ne l'a pas empêché d'être drafté au premier tour, mais ça a été en fin de premier tour. Et puis finalement, on voit que quand même, il galère encore cette année avec les blessures, avec Tennessee. Donc oui, c'est vraiment ce qui risque de limiter sa cote à la draft. Mais donc voilà, le combine sera vraiment décisif, plus encore pour lui que pour les autres joueurs. Et lui, ça va vraiment être au niveau du médical.
Ouais, je crois que Farley, il a joué 2 ou 3 matchs cette saison, pas plus. Et oui, ça peut devenir ce type de joueur. Donc en effet, attention. Potentiel énorme, mais gros point d'interrogation, parce que si tu n'es pas sur le terrain, tu peux être plus talentueux que tu veux au monde, tu n'apporteras rien à ton équipe.
Exactement. Ok, donc là, on a commencé avec nos deux petits joueurs et on va dérouler le reste des cornerbacks.
actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence cette deuxième partie avec un joueur de la conférence SEC. Il jouait à Auburn, il s'appelle Roger McCreary. Alors, Roger McCreary, il a une bonne taille, il a des bonnes qualités athlétiques, il a ce qu'il faut pour la NFL. L'intelligence de jeu, c'est toujours le plus important. Mais sans qualité athlétique, comment vous voulez marquer des receveurs rapides, costauds, qui sautent à 5 mètres de hauteur ? Donc déjà, il a ça. Ensuite, il est bon contre la course parce qu'il sait jouer physique, il sait aller au contact. Pour Associated Press et ESPN, il est même First Team All-American cette année. De l'autre côté, c'était Sauce Gardner, et donc à son opposé, c'était Roger McCreary. Donc déjà, ça pose son nom. On l'a vu contre Alabama, face à Jameson Williams, le terrible. Et Jameson Williams contre Auburn, il a fait 43 yards. Voilà. Et dans ce match-là, lui, Roger McCreary, il a signé 4 passes défendues. Alors les passes défendues, je le rappelle, c'est il a dévié la passe ou il a délogé le ballon des mains du receveur. Il n'a certes pas intercepté, mais il a empêché la réception. Donc, c'est un joueur qui est régulier dans la performance. On l'a vu, même l'année dernière, il était régulier avec 6 passes défendues, 3 interceptions en 2020. Vous savez, à cette position de cornerback, généralement, il y a 2 profils. Il y a les joueurs réguliers qui, à tous les matchs, sont performants, tiennent bien leur assignation, tiennent bien leur receveur. Et puis, il y a des joueurs, ce qu'on appelle des playmakers, c'est-à-dire qui sont capables de se faire brûler sur plusieurs actions. Et puis, ils vont te sortir une interception, voire même 2 dans un match et faire la différence. Roger McCreary, il est plus dans la première catégorie. C'est le joueur régulier. Il est sérieux, il est bon de partout, il a tout ce qu'il faut. Ça sera peut-être pas, il n'a pas un profil à la Derek Stingley dont on vient de parler, par exemple. Il ne pourrait pas être aussi haut que ça. Ça ne sera pas un Jalen Ramsey à NFL. Mais par contre, il a tout ce qu'il faut pour être un cornerback numéro 1 à NFL. Après, c'est sûr, ce n'est pas le plus rapide non plus. Donc déjà, on parlait du combine tout à l'heure. Il y a le sprint du 40 yards de combine et c'est important pour un cornerback parce que les receveurs en NFL sont rapides. Et McCreary, a priori, ce n'est pas lui qui signera le meilleur temps. Mais l'un dans l'autre, avec toutes ses qualités, il a vraiment le profil d'un joueur choisi au premier tour et il pourrait être titulaire en NFL.
Oui, il peut même devenir une star. Hein. On pense par exemple à Xavier Howard. Si je me rappelle bien, il avait été assez lent au combine. Alors lent, tout étant relatif, par ailleurs, on parle d'athlète hors du commun. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas le plus rapide que tu ne feras pas une belle carrière. Moi, j'aime bien McCreary. Je trouve qu'il a mis du temps à être associé au tout meilleur de la position alors que sur le terrain, il faisait le boulot. Tu l'as dit, vraiment, peut-être le meilleur plaqueur avec un autre du troisième chapeau, mais vraiment excellent plaqueur, excellent défense de course. Ça compte, ce n'est pas rien. Il défend très bien sa zone. Il n'est pas rapide, mais il est soudain. Et il est assez bon il est suffisamment intelligent quand il est un peu pris de court pour recover, comme on dit, pour vraiment se remettre dans l'action et tenter de faire la différence. Donc, un peu comme Ahmed Gardner, si tu joues en presse à 100%, c'est peut-être pas le joueur que tu vas cibler. Mais si tu as une défense de zone, par exemple, des 49ers qui ont des problèmes là, à trouver des cornerbacks titulaires, c'est le genre de joueur dans un système Niners, moi je pense qu'il peut faire des merveilles. Donc c'est vraiment un joueur à suivre.
Oui, exactement. Ouais. Et puis on parlait de sa régularité, c'est vraiment ça. Je veux dire, en 2019, il a défendu 9 passes. En 2020, la saison a été écourtée, mais il a quand même défendu 6 passes. Et puis alors cette année, 2021, non seulement il a fait tous les plaquages, comme tu le dis, il en a plus de 49, mais il a défendu 14 passes aussi, dont 2 interceptions. Donc, c'est un joueur qui donne quand même quelques certitudes. Je dis quelques parce que, bon, après, le saut en NFL, c'est jamais gagné d'avance. Mais quand même, il donne beaucoup de certitudes, ce joueur.
Bah, surtout que dans la défense d'Auburn cette année, il n'était pas particulièrement aidé non plus par le pass rush, enfin, qui n'est pas catastrophique, mais à l'échelle de la conférence, qui n'était pas extraordinaire. Donc non, il a fait un boulot formidable.
On passe à un deuxième joueur. Dans cette deuxième catégorie, il nous vient de Clemson et il s'appelle Andrew Booth, le Smooth.
Et oui, Andrew Booth, la terreur de l'Atlantic Coast Conference. Andrew Booth, c'est vraiment un joueur. Alors, on parlait des dimensions physiques. On a dit, par exemple, que Gardner, McCreary, ils n'avaient pas forcément les dimensions idéales. Lui, il a les dimensions idéales. Lui, c'est typiquement le genre de cornerback qui va plaire. Il est rapide, il est puissant, plutôt un bon playmaker, hein. Il a des bonnes mains, il arrive à convertir les actions. C'est encore un peu brut, c'est peut-être un peu moins intelligent, c'est méchant de dire ça, mais je parle intelligent au sens QI football, hein, évidemment, que tous les autres dont on a parlé. C'est pas le meilleur plaqueur. Il faut qu'il progresse là-dessus. Il a un peu trop tendance à plaquer avec l'épaule et pas avec le bras. Mais c'est un diamant à polir, quoi. C'est vraiment le potentiel est très, très haut. Il faudra peut-être être un petit peu plus patient que les autres. Peut-être une petite saison pour se roder. Mais ça peut devenir un Malcolm Butler, ce genre de joueur qui a toutes les dimensions pour réussir. Et autre chose qui est quand même appréciable, c'est que non seulement il défend bien, et cette année, il a pris zéro pénalité. Et c'est un joueur, il ne laisse pas traîner les mains. Quand il sort sa main, c'est pour dévier le ballon. Et ça, c'est important, parce qu'on parle des mains dans le sens faire des interceptions, etc. Il y a aussi les mains, ne pas laisser traîner les mains et les mettre aux bons endroits. Et vraiment, je trouve que Booth, il progresse de saison en saison, enfin de semaine en semaine même. Et il y a un vrai potentiel cornerback numéro un. Encore une fois, il faudra être un tout petit peu plus patient peut-être qu'avec les autres, mais ça peut valoir le coup.
Ouais, ouais. Et puis, tu vois, je le surnommais le smooth, ce qui veut dire fluide, parce que moi, je le trouve très fluide de mouvement. Et du coup, ça me fait penser, ben, encore une fois, au NFL Combine, hein, je suis désolé, mais c'est tellement important. Et je pense que lui, ce qui sera très intéressant, ce n'est pas un atelier avec mesure où on va mesurer la distance ou un chronomètre, mais c'est cet atelier qui est très important pour les arrières défensifs, c'est ce qu'on appelle le backpedal, c'est-à-dire des joueurs qui doivent reculer, puis se retourner, puis sprinter. Et en fait, c'est un atelier qui simule exactement les situations de match, puisque en situation de match, ils vont être obligés de reculer en regardant le receveur, puis à un moment donné, ben, forcément de se retourner et de sprinter pour suivre leur receveur. Et donc, dans cet exercice-là, moi, je pense que Andrew Booth risque de marquer pas mal de points auprès des scouts parce que je le trouve vraiment fluide dans ses mouvements. Il a une certaine aisance à faire ceci. Et ça, c'est très important. Et je pense que, comme tu dis, il faudra peut-être être un petit peu patient, mais je pense que dès sa saison rookie, déjà, il pourra apporter. Alors, est-ce qu'il sera vraiment déterminant dès sa saison rookie? Pas forcément, mais il va apporter. Et ensuite, oui, il deviendra titulaire, moi, je pense, à NFL.
Oui, oui, je pense que c'est vraiment le type de joueur. Ça va plaire. Enfin, on sait, hein, la draft, c'est le talent, mais c'est aussi le physique. Hein. On draft des potentiels physiques et il est dans cette catégorie.
Ben merci pour la transition, parce que du coup, on va passer à un troisième joueur qui, lui aussi, justement, excite forcément les scouts et notamment par sa dimension physique. Il s'appelle Kahir Elam, il vient de Florida. Alors, Kahir Elam, c'est 1m88 pour 88 kilos. Et puis, avec des qualités athlétiques vraiment au-dessus de la moyenne. C'est un monstre, il est grand, il est costaud, il bouge bien, il saute haut, il court relativement vite. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un joueur qui est plutôt intelligent, il comprend bien les tracés des receveurs, les trajectoires des ballons. Sa production n'est pas folle en université, il a fait 5 interceptions en 3 saisons, mais bon, il n'était quand même pas souvent ciblé, il était craint. C'est un joueur qui, dès sa saison freshman, a montré qui pouvait contribuer. Sa saison sophomore en 2020, il a été vraiment très bon. Donc, du coup, il n'était pas souvent ciblé de son côté du terrain. Il marquait le meilleur receveur, on y allait rarement. C'est quelqu'un qui peut jouer davantage en zone, je pense, parce qu'il est très bon avec ses qualités athlétiques, avec sa taille. Il peut marquer, il peut contrôler un côté et marquer un receveur, il n'y a pas de problème. Il va prendre son côté. Le receveur qui sera de ce côté-là, il aura vraiment des difficultés. Par contre, le souci... On parlait de l'inverse avec Bruce il y a 2 secondes. Lui, en défense en homme à homme, il a malheureusement la grande tendance à laisser traîner les mains. Et laisser traîner les mains, ça veut dire commettre des pénalités, des interférences. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment rédhibitoire. Rien que cette année, tu me disais, il a commis 7 pénalités. Je veux dire, 7 pénalités, c'est juste pas possible en 10 matchs. C'est vraiment énorme. Et on parle du niveau universitaire. Donc, avec Florida, il a rencontré de bonnes équipes, de bons receveurs. Mais en NFL, ça va être tous les dimanches qu'il va rencontrer des receveurs encore meilleurs. Donc, cette tendance-là à commettre des pénalités, ça risque de vraiment le pénaliser.
Il y a un côté Jesse Horn, en fait. C'est ce genre de joueurs qui sont très bons, mais c'est tout le coaching qui va avoir lieu dans les premières années en NFL qui vont déterminer s'ils vont réussir à gommer ses erreurs ou pas.
Oui, Oui, et les erreurs, c'est notamment aussi contre le jeu de course. On parlait des plaqueurs. Ben, lui, le problème, c'est que ce n'est pas un excellent plaqueur. Déjà, il a tendance à un petit peu prendre des mauvais angles, souvent. Et il prend un mauvais angle et ensuite, c'est terminé. Il ne peut pas rattraper son erreur. C'est également sa façon de plaquer. Alors, il a montré des progrès quand même sur sa troisième saison. On a vu que voilà, c'était quand même mieux à ce niveau-là. C'était mieux. Mais l'un dans l'autre, quand on regarde tous les cornerbacks, et forcément, vu qu'on parle quand même de joueurs potentiellement pris au premier tour, ben, tu regardes tous les aspects. Et Kyrie Lam, ce n'est pas celui qui te donne le plus d'assurance au niveau de la défense contre la course, au niveau du plaquage. Mais l'un dans l'autre, ses qualités athlétiques, son gabarit, tout ce qu'il a, je pense que quand même, il peut bien valoir un choix de fin de premier tour. Moi, je dirais une fin de premier tour. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui. C'est un joueur clivant. Alors, tu l'as dit au niveau du plaquage. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup relevé chez lui. En début de saison, c'était encore pas bon du tout. Et c'est vrai qu'il progresse. Il faut lui reconnaître que la deuxième partie de saison a été bien meilleure. Il a changé sa technique de plaquage et ça a réussi. Donc, j'ai envie de dire bon point, parce que des joueurs qui savent se remettre en cause et essayer de changer, et pas des mecs têtus qui disent « de toute façon, je suis le meilleur, j'ai rien à changer », bon, tu te dis, déjà, ça veut dire que le mec, c'est un bosseur. Bon, après, c'est un bosseur, mais il est à Florida, hein, donc tu peux jamais être sûr, il a peut-être des flingues dans son coffre. Mais le fait est que oui, c'est vrai qu'en termes d'explosivité, de mobilité, de physique, tu peux pas faire beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, à part Stingley, franchement, je pense pas qu'il y ait un physique plus impressionnant que le sien. Mais tu as l'impression qu'il y a des moments où il a des failles mentales, où il arrête de réfléchir, il pose son cerveau sur le côté et il fait n'importe quoi. Et moi, ça me rappelle vraiment Jesse Horn par moment. Et tu te dis vraiment, il faut qu'il soit bien coaché, mais alors bien coaché, il peut devenir... Alors, je voyais sur PFF, comparé à Antonio Cromartie, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il peut devenir ce type de joueur vraiment disruptif, si on utilise un terme à la mode dans le marketing actuel.
Oui. Ben, en gros, c'est un joueur qui sera surtout drafté pour ses qualités athlétiques, plus que pour son intelligence de jeu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il joue mal, qu'il ne comprend pas le jeu. Évidemment, on parle quand même d'un premier tour, c'est un bon joueur. Hein. Mais c'est ses qualités athlétiques qui font vraiment sa valeur. Et comme tu dis, tu parlais du coaching, ben voilà, un staff va se dire, avec les qualités athlétiques qu'il a, avec déjà l'expérience de jeu qu'il a, on va bien l'entraîner, on va bien essayer de gommer ses petits défauts et il peut devenir un très, très bon cornerback en NFL. Parce que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, les qualités athlétiques en NFL, c'est tellement primordial que souvent, les scouts NFL et les franchises NFL, elles misent là-dessus. Et c'est la force de Kyrie Lam.
Ouais, c'est sûr. Je pense que ça fait partie des joueurs. Il va exploser le combine et il va forcément grimper.
En tout cas, dans cette troisième partie, on a parlé de trois cornerbacks très intéressants et trois cornerbacks avec trois profils très différents. Roger McCreary d'Auburn, Andrew Booth de Clemson et donc Kyrie Lam de Florida. On passe à la troisième partie.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Troisième partie, et on a encore un trio. Alors, pour ce dernier trio, on va commencer avec un joueur qui est très intéressant, qui vient en plus d'université de Washington, habitué à former des defensive backs en veux-tu, en voilà, de Marcus Peters à Desmond Trufant, de Buda Baker à Taylor Rapp. Victor, tu vas nous parler d'un autre Mac de cette draft, après Roger McCreary, et donc c'est Trent McDuffie.
Oui, Trent McDuffie, je pense que c'est le septième qui peut prétendre au premier tour. Ça peut paraître beaucoup, mais l'année dernière, par exemple, au premier tour, on a 6 Edge. Ça peut arriver. En tout cas, il n'ira pas loin dans le deuxième tour. C'est un joueur intéressant parce qu'on a souvent ce type de joueur. Tu parlais en off, quand on parlait des Jamolden, moi, je parlais d'Asante Samuel. C'est ces joueurs dont tu as des gens très intelligents qui vont faire des articles pour dire « il est très bon, mais il est trop petit ». Alors bon, il est trop petit, ça c'est toujours l'argument. Il y a plein de cornerbacks qui font 5-11 et qui ont des très bonnes carrières en NFL. Je pense qu'il est explosif. lui, il a beaucoup de recover, un peu comme l'autre, McCreary. Si jamais il fait une petite erreur, il arrive à vraiment la corriger avec le bon mouvement, la bonne récupération. Bon plaqueur, bon en presse. Alors oui, c'est sûr que c'est pas une dimension physique hallucinante. Et j'ai envie de dire qu'il faut qu'il fasse plus d'interceptions. Parce que je regardais ses matchs quand même, il a beaucoup d'opportunités et il ne convertit pas forcément autant qu'il devrait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va devoir travailler. Mais globalement, moi, je pense que si jamais il n'arrive pas à devenir un titulaire en cornerback, il peut devenir un titulaire en safety. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Même s'il est trop petit, je pense qu'il a trop de talent pour être ignoré.
Oui. Et puis, de toute façon, les défenses NFL, elles utilisent la plupart du temps 5 defensive backs. Donc, même si Trent McDuffie, ce n'est pas le plus grand, il y aura toujours une place pour lui, que ce soit plus à l'intérieur, que ce soit plus à l'extérieur aussi. Donc, il y aura une place pour lui. Après, c'est vrai que le problème de taille, voilà, c'est quand même quelque chose à considérer. Pas qu'on estime, nous, que c'est rédhibitoire. Tu l'as bien dit, on en voit, il y en a dans toutes les équipes, des cornerbacks qui manquent un tout petit peu de taille et qui, pourtant, sont très, très bons. Mais c'est juste que c'est une réalité. Par exemple, l'année dernière, on a eu 5 cornerbacks choisis au premier tour et les 5 sont plus grands que Trent McDuffie. C'était Jesse Horn, Patrick Surtain, Caleb Farley, Greg Newsome, Eric Stokes. Ils sont tous plus grands que lui. Celui qui a peut-être un petit peu ce type de lab de gabarit, c'est Asante Samuel. Et puis, ben voilà, Asante Samuel, qui pourtant avait été très bon à l'université, a été pris au second tour. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on est obligé d'en parler. Est-ce que ça ne va pas être rédhibitoire, ce manque de taille? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense pas. On ne parle pas non plus d'un joueur qui fait 5-9. Hein, donc, faudra voir. Disons qu'en slot, tu n'as pas forcément besoin d'être aussi grand. Après, est-ce que tu as envie de sélectionner au premier ou au deuxième tour un joueur que tu destines à être slot cornerback? Peut-être pas. Donc, c'est tout cette énigme qu'il va falloir résoudre. J'ai envie de dire que là aussi, les ateliers vont être importants. Il va se mesurer à d'autres joueurs qui seront plus grands, mais à lui de montrer qu'il peut faire plus. J'y crois et on verra au fil du process comment ça se passe. Il peut chuter un peu. Je serais très étonné qu'il sorte des deux premiers tours quand même.
Oui, moi aussi. Quand je parlais de rédhibitoire, j'étais vraiment focus sur le premier tour de la draft.
Oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Oui, c'est... ça peut être le healthy scratch des 7 sur le premier tour. Et oui, c'est tout à fait envisageable.
Mais par contre, le talent est là. Et donc, oui, forcément, s'il est toujours disponible au deuxième tour, les franchises vont se jeter dessus. On va passer à un autre joueur qui, lui, c'est un petit peu l'opposé. Lui, il a vraiment la taille idéale. Et on va en parler. Il s'appelle Kobe Bryant. Donc, il a déjà presque un nom de super-héros du sport. D'ailleurs, le prénom, même si ça ne s'écrit pas pareil, il a eu ce prénom en hommage au célèbre basketteur. Les parents l'ont nommé d'après le basketteur des Lakers. Donc, Kobe Bryant de Cincinnati. Donc, lui, il fait 1m85 pour 90 kilos. Donc, voilà, il a la taille idéale. Alors, comme on l'a dit, il y a des cornerbacks plus petits qui jouent en NFL, qui jouent très bien, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on parle de taille idéale? Parce que ça permet d'avoir un joueur qui est quand même suffisamment grand pour défendre les grands receveurs. Et il y en a en NFL, il y en a plein. Je veux dire, que ce soit Mike Evans ou mon chouchou T. Higgins, ben voilà, ils sont grands. Donc, si tu es petit, même si tu as du jump, déjà, c'est difficile de leur contester le catch. Donc, il a cette taille idéale. En plus de ça, il a les qualités athlétiques. Voilà, il a une certaine pointe de vitesse, il peut aller dans la profondeur, il peut défendre son receveur, il a de bons instincts, il comprend bien les tracés, il a beaucoup d'expérience, puisque bon, là, c'était quand même sa 5e année universitaire. Alors, la première, il avait très, très peu joué, on la considère comme une année freshman, mais il a quand même beaucoup de situations de jeu, de vécu. Et puis quand même, cette année, il a été élu meilleur arrière défensif du niveau universitaire. C'est pas rien. Meilleur arrière défensif du niveau universitaire. Kobe Bryant, attention quand même. Après, les limites. Alors déjà, moi, j'en vois deux. La première limite, c'est qu'il joue dans la conférence américaine. Alors, la conférence américaine, c'est une bonne conférence. C'est considéré comme la meilleure du Group of Five. Mais le Group of Five, c'est considéré comme en dessous les 5 conférences où il y a les universités du Power Five. l'opposition, c'est forcément à prendre en compte. Alors, je m'avance un petit peu, il y a de bons receveurs dans cette conférence, mais a priori, tous les receveurs qui étaient dans cette conférence-là, j'en vois pas un qui sera drafté avant le quatrième tour. Il y en aura qui seront draftés, mais avant le quatrième tour, j'ai un petit peu un doute. Donc déjà, l'opposition, voilà. La deuxième limite, c'est qu'ils jouent à Cincinnati. Ce qui veut dire que de l'autre côté, il y avait Matt Garner, il y avait Sauce Gardner. Et Sauce Gardner, forcément, il était au marquage du meilleur receveur adverse. Ce qui veut dire que Kobe Bryant a été très bon, mais il était contre des receveurs de la conférence américaine et jamais contre le meilleur receveur de ces conférences-là, de cette conférence-là. Donc, du coup, c'est quand même une petite limite par rapport à cette position.
Oui, tu disais pas de receveur en quatrième tour. J'en ai peut-être un en tête, mais il joue dans son équipe. Donc, en effet, il n'a pas eu beaucoup à défendre. Non, je suis assez d'accord avec ça. C'est un joueur qui a mis du temps à mûrir, ce qui, d'un côté, est rassurant parce que je pense qu'il a un plafond assez haut, mais ce qui veut dire aussi qu'il ne dépassera pas des sommets absolus. Là où Ahmad Gardner, pendant 3 ans, a dominé, alors que Cincinnati n'était pas forcément aussi dominant qu'ils ont pu l'être là, les 2 dernières saisons, Kobe Bryant, c'est sûr qu'il profite d'un environnement extrêmement favorable. Après, c'est un leader, il est intelligent, il bouge bien. De toute façon, ces joueurs de Cincinnati, cette année, ils ont l'air bien dans leur tête. Hein. Ça a l'air vraiment d'être l'anti-Florida. C'est pas le meilleur plaqueur et il fait rien d'exceptionnel. En fait, il y a aucun moment où tu te dis « Waouh, vraiment, quel joueur hors du commun ?» Non, il est régulier. Il est régulier, il va faire tout. C'est un peu le McCreary, mais encore un petit peu moins impressionnant que McCreary. Je mettrai une petite dimension en dessous. Mais bon, ça reste un super joueur. Hein. Donc, je pense qu'il sera fin deuxième tour. Ça me paraît, enfin, deuxième partie de deuxième tour. Ça me paraît honorable. Parce que, bon, il n'y a pas de raison qu'il descende beaucoup plus bas parce que ça fera un excellent cornerback numéro 2.
Ouais. Et il sera au Senior Bowl. Et ça va être important. Le Senior Bowl début février, ça va être important. Parce qu'en plus d'être entraîné par un staff NFL, en plus, il y a différents entraînements, en plus, il y a les entretiens individuels qui sont importants également. Il y a aussi le match, même si c'est un peu un match amical, mais quand même le match face justement là à une opposition qui sera très relevée. Ça sera très intéressant de le voir. Mais le Senior Bowl, je pense surtout à une chose. C'est pendant la semaine d'entraînement, on voit beaucoup d'ateliers où les cornerbacks sont directement au marquage d'un receveur. Donc, en fait, il y a juste 3 joueurs sur le terrain. Enfin, 3 joueurs qui sont en action. Il y a le quarterback qui va lancer une passe. Et puis, tu as un receveur qui va faire un tracé et un cornerback qui essaye de le suivre. Il y a beaucoup d'ateliers comme ça. Et donc, du coup, face à quelques-uns de la crème des receveurs du niveau universitaire, Kobe Bryant va être testé. Et là, on va voir si c'est 11 passes défendues de cette année, si il en a défendu 35 quand même en 4 saisons titulaires. Si toute cette production au niveau universitaire dans la conférence américaine, elle tient aussi la comparaison avec les meilleurs receveurs de tout le niveau universitaire. Donc, le Senior Bowl, début février, je pense que ça sera encore plus important pour lui que le Combine, qui viendra juste après. Évidemment, le Combine sera aussi important, mais déjà, le Senior Bowl, pour lui et pour sa cote à la draft, ce sera très important. Sinon, pour l'instant, je te rejoins, moi, je le vois plus comme une deuxième partie de second tour, mais pas plus tard, je pense que quand même, il a suffisamment de qualité pour être pris. Alors, à la limite du top 50, juste un petit peu après, voilà, vers là.
Oui, tu as raison sur le Senior Bowl. En soi, le match, on s'en fout un peu. Hein. C'est comme le Pro Bowl. Ce qui intéresse vraiment, tu as dit, c'est les 1 contre 1, que ce soit joueur de ligne défensive contre joueur de ligne offensive ou que ce soit les 1 contre 1 receveur cornerback. Par exemple, on parlait de Quinn Meinerz, ton chouchou qui venait de 3e division. Comment il s'est révélé? C'est parce qu'au Pro Bowl, au 1 contre 1, il a shut down tous les defensive tackles qui étaient en face de lui. Donc, c'est ça qu'on regarde beaucoup plus que le match en soi. Le match, il est sympa, mais il y a d'ailleurs certains joueurs, quand ils réussissent bien les ateliers, ils ne participent même pas au match. Donc, c'est vrai que oui, je suis d'accord que ça va être une semaine intéressante pour lui.
Ok, ben, je suis d'accord. On va passer à notre dernier joueur de cette 3e catégorie. Il vient de Missouri, Alors, il a joué à Tulsa avant, mais il était à Missouri cette année. Et donc, déjà, c'est pas mal, moi, je trouve, puisqu'il est parti d'une conférence, la conférence américaine, un petit peu moins cotée. Il s'est dit, non, moi, je vais montrer que je peux jouer dans la meilleure conférence universitaire. Et il l'a fait. Il s'appelle Caleb Evans et tu vas nous en parler.
Oui, Caleb Evans. Alors là encore, physiquement, il coche toutes les cases, globalement. C'est un joueur physique, c'est un joueur fait pour le press. Lui, pour le coup, il a des mains puissantes, peut-être pas jusqu'à violentes, mais puissantes. C'est un bon plaqueur, il est bon en poursuite, etc. Après, c'est vraiment un projet, dans le sens où il fait encore des erreurs en couverture et en placement de mains où tu te dis, c'est incroyable de faire ces erreurs-là à ce niveau-là. Il est frustrant comme joueur. Parce que sur le papier, ça peut être un Kyrie Lam. Sauf, voire un Kyrie Lam encore mieux puisqu'il s'est plaqué. Sauf que, je suis méchant parce que comme je l'ai dit, Lam a progressé. Sauf que, voilà, il manque encore, même si il a déjà fait, en passant d'une conférence, tu l'as dit, peu relevée à une conférence très relevée, il a montré qu'il avait le niveau. Donc ça, ça lui permet de solidifier les trois premiers tours. Mais, voilà, c'est un joueur... Il va falloir bosser, il va falloir être bien encadré, il va falloir être patient. J'attends pas de lui d'être un titulaire première année, vraiment. Alors, autant Andrew Booth disait qu'il faut être patient, mais il peut quand même faire le boulot. Evans, je pense vraiment qu'il faut qu'il soit bien entouré. Mais voilà, là, c'est vraiment, je mise sur le potentiel en me disant que s'il corrige des imperfections qu'il continue à avoir, il peut vraiment faire une longue carrière en NFL.
Déjà, il est grand, 1m88, 85 kilos. Et puis, comme tu disais, voilà, il est très bon en presse. C'est un homme à homme. Je veux dire, il est très physique. Et ça plaît forcément pour le jeu en NFL. C'est-à-dire qu'en presse, c'est quoi? En gros, c'est qu'il se sert de ses bras pour déranger les receveurs dans les 5 premiers yards. Et puis ensuite, il va aller à son contact pour déranger la réception. Il a vraiment des qualités athlétiques. Et ça, vraiment, il semble plus fait pour la NFL finalement que pour le niveau universitaire. Après, ce n'est pas le plus rapide non plus en vitesse de pointe. Donc forcément, s'il est aligné face à Jalen Waddle ou Brandon Cook, ça va être difficile pour lui. Mais bon, il n'y a pas que des speedsters non plus en NFL. Il y a aussi des receveurs grands, costauds. Et là-dessus, il n'y aura pas de problème. Il sera les défendre. Moi, surtout, la limite que je l'y vois pour l'instant, c'est sa santé. Parce qu'il a quand même raté beaucoup de matchs à l'université. Je veux dire, en 2017, il n'a joué que 7 matchs. Il n'en a joué que 8 en 2018. Il a eu une blessure à l'épaule qui l'a privé quasiment de toute la saison de 2019. Donc là aussi, pour lui, le rapport médical sera très important. Alors cette année, OK, il n'y a pas de souci. Il a joué les 11 matchs, en plus en conférence SEC et en plus avec Missouri. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout les meilleurs coéquipiers pour l'aider. On parlait tout à l'heure de Garner ou de Bryant qui étaient quand même aussi aidés par le pass rush devant eux. Mais lui, à Missouri, bon, OK, il y a Trajan Jeffcott qui est bon, mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est Missouri. Et il a réussi à faire son beurre, il a réussi à montrer ses qualités. Mais je pense que voilà, le rapport médical, ça va être quelque chose d'important pour lui. Parce que sinon, voilà, il est grand, il est physique. Et puis en plus, ce petit côté... j'accepte le challenge. Voilà, j'ai fini ma carrière universitaire avec tout ça. Il aurait déjà pu se présenter à la draft, sans doute être pris fin de troisième, quatrième tour, et donc devenir professionnel. Il a dit non, je vais aller en SEC, je vais prouver ma valeur. Et il a prouvé. Donc, il a un profil quand même séduisant. Et on va voir ce que ça donne, parce que lui aussi, il sera au Senior Bowl. Et pour lui aussi, ça sera important.
Oui, tout à fait.
OK, donc là, pour cette troisième catégorie, on vous a parlé de Trent McDuffie, on vous a parlé de Kobe Bryant et on vous a parlé de Caleb Evans. Donc, c'était la troisième catégorie. Ça ne veut pas dire que ces trois joueurs seront forcément pris après les cinq dont on a parlé. A priori, c'est ce qu'on pense, mais encore bien des choses peuvent se passer d'ici là. Maintenant, on va parler d'un joueur dont on est quasiment sûr qu'il sera sélectionné après les sept joueurs dont on vient de parler. C'est notre sleeper.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Notre sleeper du jour, Alors attention, un joueur un petit peu au profil inhabituel, tout de même inhabituel, c'est quelqu'un qui nous vient de Iowa, qui a été très productif. Il s'appelle Riley Moss. Mais moi, la première question que j'ai envie de te poser, Victor, c'est « White men can't jump ». Est-ce que les Blancs savent sauter? Vous avez tous vu ce film, j'imagine. Et voilà, je me pose la question.
Oui, ben c'est vrai que c'est un peu un running gag depuis des années. C'est-à-dire que depuis 2002, il n'y avait pas eu de cornerback blanc en NFL. Il y en a eu un cette année, je crois que c'est Troy Apke. Apke, je ne sais pas comment on prononce.
Oui, et encore, c'était un safety à l'université à Penn State. Non, il a été rebasculé en cornerback et ce n'est pas un titulaire à Washington.
Ouais. C'est ça, il joue à Washington. Là encore, on ne parle pas d'un joueur qui sera titulaire dans les premières années, mais en effet… Riley Moss, il a surpris parce que Iowa, en début de saison, a vraiment sorti un début de saison qu'on n'attendait pas, porté par une défense absolument géniale. Et un des moteurs de cette défense, c'est Riley Moss. Riley Moss, ce n'est pas le plus rapide. Il n'a pas une vitesse incroyable, mais c'est un playmaker. Alors ça, pour les interceptions, les touchdowns défensifs, il est là. C'est vraiment sur les défenses de zone, il a le nez pour trouver le bon angle, pour anticiper ce que va faire le quarterback. Et en plus, c'est un bon défenseur de course. Donc, je trouve que globalement, c'est un joueur qui sera forcément utile. C'est un joueur qui… à mon avis, est destiné au slot parce qu'il n'aura pas les dimensions physiques et la vitesse pour être vraiment à l'extérieur. Après, dans une défense de zone, ça peut arriver, hein, mais le fait est qu'il est dans ses dimensions physiques, il n'est pas particulièrement petit, il n'est pas particulièrement grand, mais surtout, il a une envergure qui est un peu limitée. Donc, je pense que son physique fera de lui un joueur de slot, mais… voilà, c'est un joueur qui a explosé cette année, qui a vraiment montré qu'il était un leader de cette équipe. Le leadership, c'est important. Et il va avoir sa chance, à mon avis, il va avoir sa chance, parce que c'était pas gagné. Hein. C'est un 2 étoiles à la base. Et il progresse chaque année. Je crois qu'il est lui aussi invité au Senior Bowl. Peut-être que je dis une bêtise. Donc on verra, mais en tout cas c'est un joueur dont j'attends beaucoup et je pense que malgré des petits problèmes de blessure cette année, il a montré suffisamment pour avoir sa chance dans une équipe NFL.
Oui, bah, il a montré des choses excellentes, hein. Rien que cette année il a fait 4 interceptions dont 2 retournées pour un touchdown, donc voilà quoi. Et puis c'est pas comme si ça venait de nulle part, hein. En 2020 il avait déjà fait 2 interceptions, en 2019 2 interceptions, en 2018 2 interceptions. Enfin, voilà, quoi, c'est un joueur hyper intelligent. Donc oui, moi, je pense qu'il trouvera une place. Après, une place à NFL, ça, on verra. Mais au niveau de la draft, moi, je me pose la question. Je ne sais pas, tu le situeras à quel niveau?
6e, 7e tour. Hein. Ça ira pas plus haut, à mon avis.
Ouais, par rapport aux qualités athlétiques et par rapport au profil, tu veux dire, c'est ça?
Oui, je pense qu'il y a des joueurs, quand tu les regardes, tu te dis « Ah !» des équipes peuvent tomber amoureux et ils peuvent monter plus haut. Je pense par exemple à un joueur, j'avais hésité à le prendre en sleeper, mais un joueur qui a un potentiel physique atypique, qui est Tariq Woolen de UTSA. Ce genre de joueur, tu te dis waouh, c'est un physique particulier, peut-être que je vais prendre le risque au 4e ou 5e tour. Je pense que Riley Moss, c'est vraiment au 7e tour, ah tiens, on va lui donner sa chance parce que on n'a pas forcément de playmaker à l'arrière de la défense. Et que s'il peut nous faire l'interception et 2 interceptions qui vont nous garder dans un match, allons-y. Après, c'est toujours pareil, hein, il peut progresser et devenir excellent. On a vu des 7e tours, je pense à Jordan Poyer, par exemple, le safety des Bills. C'est un 7e tour qui est coupé par les Eagles, qui est à peine développé aux Browns et qui devient un excellent titulaire. Donc, on ne peut jamais savoir. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui aura sa chance. À voir s'il l'a saisi.
Ouais, et puis il fallait en parler. Il fallait en parler, un profil un petit peu atypique. Et puis ce qu'il a montré avec Iowa dans la conférence Big Ten, il fallait absolument en parler. Après, on aurait pu parler d'autres joueurs aussi, comme Martin Emerson de Mississippi State, ou alors Darian Kendrick de Georgia. On l'a encore vu, là, en demi-finale des playoffs, il a été très bon. Mais bon, choisir, c'est renoncer. Il fallait qu'on fasse des choix. Et donc, pour le sleeper, on a choisi Riley Amos. Même si, Victor, en deux mots, vite fait, tu peux nous dire aussi quelque chose sur un joueur que tu aimes bien, c'est Kyler Gordon de Washington.
Oui, mais l'autre cornerback de Washington, je te disais, en fait, en étudiant du coup son coéquipier, je suis tombé dessus. Il est marrant, ce Kyler Gordon, parce qu'il est rapide, il est physique et il ne loupe pas un plaquage. Et je te disais, je ne sais pas si ça deviendra un bon cornerback en NFL, mais par contre, ça peut devenir un gunner titulaire pendant 15 saisons. Alors, le gunner, c'est en équipe spéciale, celui qui du coup part à la poursuite du joueur qui va recevoir le ballon lors d'un punt. Mais vraiment, je pense que c'est faut jamais négliger au 6e, 7e tour les joueurs qui ont des aptitudes à jouer en équipe spéciale. Ça fait la différence souvent entre un joueur non drafté et un 7e tour. Donc, Kyler Gordon, à voir, parce qu'il est redshirt sophomore, hein, donc il peut tout à fait revenir en université. Je crois que c'est fin janvier qu'on aura la liste exacte des gens qui se présentent. Donc, à voir. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui m'avait plu. Et puis, oui, tu disais des noms. On peut parler aussi de Michael Wright de Oregon ou de Noah Daniels de TCU. Il y a tellement de cornerbacks. Il y a tellement de cornerbacks dans cette draft qu'on ne peut pas, pour l'instant, tous les évoquer, mais on en aura 15, 20 qui seront draftés, ça va être du délire.
Oui, bah, du coup, alors aujourd'hui, on vous a parlé d'Ahmad Garner de Cincinnati, de Derek Stingley de LSU, de Roger McCreary de Auburn, d'Andrew Booth de Clemson, de Trent McDuffie de Washington, de Kobe Bryant de Cincinnati, d'Akaleb Evans de Missouri, et puis notre petit sleeper Riley Moss. Ben, merci Victor.
Ben, merci à toi.
Et les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast Draft. Vous le savez, c'est tous les samedis. Tous les samedis, on fait une position. Et samedi prochain, on retourne du côté offensif du ballon sur la ligne offensive. Et il y aura de quoi dire parce qu'on va parler de l'intérieur de la ligne offensive. Bonne semaine à tous.
Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.